Bonsoir à tous, je me présente, Sophie Valerio, je suis déléguée médicale pour les médicaments du docteur Reykjavec en Suisse romande. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée en webinaire qui sera animée par le docteur Jean-Yves Henry. Jean-Yves Henry que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, il est médecin homéopathe, naturopathe spécialisé en homéopathie et médecine complémentaire. Il dispose de plus de 40 ans d'expérience en médecine complémentaire. Et il enseigne depuis de nombreuses années dans ce même domaine. Durant ce webinaire, nous proposons d'aborder le grand et vaste thème qu'est le système digestif et son fonctionnement. En effet, l'état de notre système digestif reflète notre état de santé général et il nous paraît donc important de vous en dire un petit peu plus sur le sujet. Si vous avez des questions qui surviennent durant la conférence, vous pouvez les poser grâce à l'outil questions-réponses. Nous y répondrons par écrit ou alors Jean-Yves Henry y répondra à la fin de sa conférence. J'ai grand plaisir maintenant à laisser la place à Dr Jean-Yves Henry. Bonne écoute à tous.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je crois que beaucoup de monde est là, donc on peut commencer quand vous voulez. Voilà, ben bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va essayer de vous présenter un petit peu la pathologie rapidement ce soir, la pathologie du système digestif, et pas tellement dans une optique universitaire, mais dans une optique pratique des problèmes que nous allons tous rencontrer au cabinet pour avoir une attitude, je dirais, solution-oriented, hein. Parce que ce n'est pas la peine de raconter des trucs et des machins, il faut proposer, il faut être précis dans le diagnostic et il faut proposer des solutions pratiques et simples à nos patients. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'appareil digestif? Eh bien, c'est un ensemble d'organes qui va transporter les aliments vers l'épithélium de résorption, c'est-à-dire l'intestin grêle, avec un rejet des déchets, fibreux essentiellement. Et il a un rôle très très important dans le maintien du tonus immunitaire. Notre système digestif, et en particulier au niveau des villosités intestinales, c'est notre radar immunitaire. Beaucoup de gens l'ont oublié, beaucoup plus que l'ORL, beaucoup plus que les poumons, beaucoup plus que la peau. Alors, ce système digestif, il a une motilité, c'est-à-dire une couche musculaire annulaire interne, une couche musculaire longitudinale externe, qui est innervé presque exclusivement de manière autonome, c'est-à-dire le système sympathique, ortho et parasympathique, va régler les phénomènes de la motricité de la digestion, et également d'ailleurs des phénomènes de sécrétion enzymatique des glandes annexes. Sous l'influence des concentrations de potassium, de calcium, les stimulus d'étirement, les facteurs psychiques, la quantité d'enzymes pancréatiques et d'acide biliaire, qui ont un rôle très important au niveau du gros intestin, la régulation thyroïdienne, la présence de sérotonine, d'hormones, d'histamine, de prostaglandine, tout ça va être extraordinairement impacté par le bon ou le mauvais fonctionnement du système digestif. Enfin, se rappeler qu'il y a des ondes péristaltiques pour faire avancer le bol alimentaire et que ces ondes péristaltiques vont mélanger les aliments avec les sucs. Alors, les principaux organes du tube digestif sont dans un sac, qui est le sac péritonéal, avec un système veineux spécifique, qui est le système porte, qui va ramener le sang de la digestion au filtre hépatique avant de le diffuser dans le reste de l'organisme par le biais des veines sus-hépatiques. Alors, il y a différentes phases dans cette digestion. La première phase, c'est la division des aliments en micro-fragments assimilables. Donc, on va avoir besoin d'eau, on va avoir besoin de bile, d'acide gastrique et des différentes enzymes digestives. Des enzymes de décomposition des glucides, sécrétées bien sûr par les parotides, le pancréas et l'intestin grêle. des enzymes de dégradation des protéines par l'estomac, en particulier l'acidité de l'estomac va permettre de digérer les protéines, le pancréas et l'intestin, et puis des enzymes de dégradation des graisses, le pancréas, mais surtout la vésicule biliaire, la bile étant un émulsionnant des graisses extraordinairement efficace. Alors là, je vous ai fait un petit clin d'œil avec une vision schématique du tube digestif, mais j'ai trouvé ça assez humoristique. Alors évidemment, il va y avoir au niveau de la physiologie digestive des carences de dégradation des glucides qui vont donner des diarrhées, des sélacides, des carences des protéases qui vont donner des dysbioses et de la putréfaction avec des gaz, des carences en lipase avec des sels gras qui flottent dans la cuvette, et en sachant qu'en fait, c'est un mécanisme qui va additionner un certain nombre de phases avec des pH très différents selon les segments. Par exemple, la bouche, on est relativement équilibré, légèrement acide. L'estomac est extrêmement acide. Au niveau du duodénum, au contraire, ça devient extrêmement basique. Autrement dit, l'acidité de l'estomac est très tamponnée au niveau du duodénal. Et puis, pour le reste de l'intestin grêle, c'est plutôt acide, alors que le gros intestin est plutôt alcalin. Vous voyez, il y a vraiment une bascule périodique des phases d'acidose et d'alcalose, ce qui me fait dire d'ailleurs, et c'est une notion que beaucoup de nos amis naturopathes ont du mal à assimiler, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'alcalose et d'acidose généralisée. Il n'y a jamais que des acidoses localisées. Quand vous êtes en acidose ou en alcalose généralisée, vous êtes au CHU en réanimation. Donc, en fait, c'est des phénomènes de déplacement d'acidose et d'alcalose. Et en fait, on verra que c'est les phénomènes d'hydratation des tissus qui vont déclencher ces phénomènes d'acidose localisée. Et ça ne sert à rien de prendre des produits alcalins ou alcalinisants. Ça ne sert à rien. Il faut remettre de l'eau dans les tissus. Voilà. Si vous remettez de l'eau dans les tissus, il n'y a plus d'acidose. Alors voilà, pour résumer, les différents pH, vous voyez, la bile 7,5, le pancréas alcalin, l'estomac extrêmement acide. Voilà, et puis bien sûr, le côlon droit, transverse et gauche qui va avoir un rôle vraiment de distillation, on va dire de distillation des sels pour en extraire l'eau et pour concentrer les fibres et en particulier pour nourrir le microbiote et permettre le maintien du tonus immunitaire. Alors évidemment, il y a un geste que les anciens praticiens faisaient systématiquement, qu'on a un petit peu oublié à la faculté, c'est de regarder la langue. Là, je vous ai mis trois langues qui sont intéressantes. La première, c'est une langue qui est blanche avec un enduit. Alors d'abord, il faut regarder la langue sur trois niveaux, la salive, l'enduit et le corps de la langue. Alors la salive, évidemment, va nous renseigner sur le niveau d'hydratation du tube digestif, l'enduit sur le mucus et en fait le fonctionnement du tube digestif et le corps de la langue sur l'aspect vasculaire. Là, vous avez à gauche, vous avez une langue avec un enduit qui est gras, qui est blanc, ça c'est typiquement une langue de surcharge digestive. Et puis on voit d'ailleurs que cette langue, elle garde l'empreinte des dents, ce qui est caractéristique des gens qui sont fatigués. Il n'y a plus assez d'énergie pour repousser les encoches des dents. Sur le cliché du milieu, vous voyez ce qu'on appelle une langue géographique, c'est-à-dire il y a des zones sans enduit, il y a un enduit qui est gras et puis des zones sans enduit. Donc là, c'est une double pathologie, le fait qu'il y a beaucoup trop d'enduit, donc un engorgement digestif, mais avec des phénomènes de sécheresse qui sont déjà très importants, puisqu'il n'y a plus assez d'eau pour hydrater la langue. Et puis, le cliché de droite, c'est une langue vasculaire. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de nous chauffer, un AVC, un infarctus du myocarde, etc. C'est ce qu'on appelle les picots vasculaires. Et ça, c'est une langue assez inquiétante. Voilà, donc vous voyez, la langue, c'est le scanner du pauvre, mais c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça ne coûte rien, ça fait rire les gamins d'ailleurs quand on leur demande de tirer la langue, et puis ça vous apporte quand même des éléments diagnostiques qui sont tout à fait évocateurs, donc il faudra après vérifier avec le reste de l'interrogatoire et de l'examen. Voilà. Alors, les rapports anatomiques, ben, voilà l'ensemble, à part bien sûr la bouche et l'œsophage, l'ensemble des organes du tube digestif. Vous voyez que c'est un tube qui est relativement long, hein, entre 6 et on va dire 11 mètres, selon que les sujets sont plus carnivores ou plus végétariens. Et puis, on voit qu'il y a des organes de digestion, qui sont des viscères, qui sont des organes creux. Et puis, il y a des organes, il y a des glandes annexes, hein, le pancréas, le foie, avec la bile, avec leur conduit excréteur. Et puis, il y a un énorme système veineux, qui est le système porte, avec une dérivation sur la rate. Et ce que les gens savent peu, par exemple, c'est qu'après une digestion, en phase digestive, votre rate, elle augmente de 300% de volume. Donc, elle triple de volume après la digestion, c'est-à-dire elle va se charger de chylomicrons, de graisse, qu'elle va relarguer progressivement pendant les phases de jeûne. Alors, évidemment, la flore digestive, elle est énorme. Elle est énorme. Notre corps contient 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines et 100 fois plus de virus, qui sont des virus qui sont nos amis, qui s'appellent les bactériophages. Et ces virus, d'ailleurs, sont ceux qui vont réguler le plus efficacement la multiplication microbienne. C'est-à-dire que si on fait rien, si on n'avait pas de virus digestif parasitant les bactéries digestives, eh ben, en quelques heures, on aurait le monde qui exploserait, tellement le volume bactérien augmente rapidement. Et heureusement, grâce à ces bactériophages, eh ben, les populations microbiennes sont régulées. Et ces bactériophages ont été très bien étudiés par DRL et par les Russes. Et vous savez que depuis bientôt une centaine d'années, les Russes soignent les infections, non pas aux antibiotiques, mais aux bactériophages. Voilà, alors ça c'est pour vous dire, c'est un petit schéma qui résume le fait que notre écosystème, il va changer avec le temps, selon qu'on est bébé, enfant, adolescent, adulte ou personne âgée, hein, et puis il va changer également avec nos habitudes alimentaires. Vous voyez, par exemple, un obèse aura une flore digestive qui sera relativement différente. Quelqu'un qui est alcoolique aussi, etc. Donc là aussi, ça va avoir un impact, bien sûr, sur les symptômes digestifs, ça va avoir un impact sur l'assimilation des aliments, et puis sur l'immunité. Et comme je vous l'ai dit, le système immunitaire, c'est notre radar immunitaire, et ça va avoir un impact également sur notre morale, puisqu'on va le voir, c'est dans l'intestin que se synthétisent énormément de neuromédiateurs et d'hormones, et même d'ailleurs de vitamines. Voilà. Alors, les chiffres divergent un peu, mais en gros, il faut retenir des choses simples. L'écosystème microbien, qu'on appelle le microbiote, c'est à peu près 400 souches qui s'autorégulent sans cesse. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans une forêt, hein, dès qu'il y a un système qui prend le dessus, ben les autres en fait, s'allient pour le réguler. Et en sachant qu'à peu près 80% de nos bactéries sont anaérobies, hein, c'est des lactiques. Voilà. Je vais en choquer sans doute quelques-uns et quelques-unes, c'est que les probiotiques sont à peu près inutiles. Voilà. C'est-à-dire, sauf diarrhée aiguë, c'est-à-dire quand on n'a plus de flore, là, c'est intéressant de mettre des probiotiques. Le reste du temps, contrairement à ce qui est annoncé chez énormément de laboratoires, vous prenez 10 milliards de germes, hein, tous les jours, et au niveau des selles, on en retrouve zéro. Ça veut dire qu'en fait, ces germes, ils n'ont absolument pas, les germes que vous avez avalés sous forme de probiotiques, ils n'ont absolument pas été Ils n'ont pas fait souche, hein, ils n'ont pas modifié les équilibres de flore. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est nourrir la flore endogène. Voilà. Donc, je crois qu'il faut arrêter de mettre en avant l'intérêt des probiotiques. Les probiotiques, en fait, servent de prébiotiques. Il faut mieux donner directement des prébiotiques si l'on veut avoir un effet. Un bon effet sur le microbiote. Il faut surtout remettre en place la physiologie. On va voir que les erreurs sont nombreuses au niveau de la physiologie. Voilà. Donc, ça fait des années que j'ai arrêté de donner des probiotiques et mes patients s'en portent extrêmement bien, surtout au niveau du porte-monnaie. Voilà. Donc, en fait, on va jouer sur ce qui est dessus la flore de barrière, hein, c'est-à-dire les aliments. Qu'est-ce qu'on va apporter comme aliment, et sur ce qui est dessous, c'est-à-dire le système immunitaire, comment il se comporte et comment il va défendre les membranes et comment après il va métaboliser les peptides incorporés. Voilà. Donc, on va également dire un petit mot de la sécheresse tissulaire, c'est-à-dire de l'équilibre hormonal qui va... le déséquilibre hormonal allant favoriser les dysfonctions immunitaires et les inflammations. Voilà, alors ça c'est un petit schéma qui est très intéressant, qui vous met en évidence hein, l'adage qui est maintenant bien connu du deuxième cerveau, de l'intestin deuxième cerveau. En fait, les aliments vont traverser. Bon, d'abord, ils sont hydratés et préparés à la digestion en petits peptides. Et puis, ces petits peptides vont passer la flore de barrière, hein, où il y a une véritable fermentation qui se fait. Et puis après, ils vont arriver sur l'endothélium digestif. Et donc, ils vont apporter des informations, des nutriments et des informations au corps. Alors, bien sûr, par voie sanguine, mais également par voie immunitaire et avec activation des cytokines, hein, par voie endocrinienne, et par les neuropeptides, et puis par voie nerveuse également. Et c'est vrai qu'une souffrance neurologique va avoir des implications également sur la quiétude de la digestion. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai, il y a ces quatre voies de relation entre le cerveau et le tube digestif. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la naturopathie a très, très bien compris que le fait de remettre de l'ordre dans la digestion, de changer les mauvais régimes alimentaires pouvait avoir des effets absolument extraordinaires dans la dynamique du changement des patients. Alors, pour ne prendre qu'un exemple bien connu, c'est celui de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neuromédiateur sédatif par excellence, hein, c'est celui qui définit ce qu'on appelle la zénitude. Hein, et ben ce neuromédiateur est essentiellement fabriqué à partir du tryptophane, qui est un acide aminé essentiel. Et ce tryptophane, il est très fragile. Et en fait, quand la digestion se fait mal, il y a peu de tryptophane qui est absorbé, donc il y aura peu de sérotonine. Donc les gens vont devenir fatigués, excitables, déprimés, etc. On sait que maintenant, la plus grande classe des médicaments antidépresseurs, ben c'est des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, on va avoir des patients qui digèrent mal et qui sont déprimés, anxieux, qui n'iront pas bien. Voilà. Alors, évidemment, tout ce qui va perturber l'alimentation aura un effet neurologique. Par exemple, l'alcool, l'excès d'épices, hein. On connaît moins bien les inhibiteurs de la pompe à protons, hein, tous les médicaments qui réduisent l'acidité gastrique, hein, c'est des toxiques en particulier au niveau du foie et du rein. Hein, donc, ils peuvent être utiles pour soulager le patient à un moment, mais on ne doit jamais les continuer à longue échéance. Hein, donc, même s'il y a des reflux œsophagiens, ben, il faut trouver d'autres solutions parce que c'est des médicaments toxiques. Et puis, moins bien connus et actuellement en ravage, les anticoagulants oraux, hein, c'est-à-dire les médicaments qui ont remplacé le Sintron et qui permettent de maintenir une hypocoagulation. Alors, c'est très intéressant, mais là aussi, ils hypocoagulent en agissant sur le foie, et donc ils ont un effet, en particulier au niveau tendinomusculaire, qui est tout à fait délétère. J'ai des patients qui ont des problèmes de périarthrite, qui sont vraiment handicapés. Il y en a même une qui est venue me voir en disant « j'ai une spondylarthrite, en fait, on lui a arrêté ce médicament et tous les symptômes ont disparu. » Voilà, et puis surtout, on va en parler plus en détail, l'existence d'une inflammation chronique de bas grade digestive qui est liée à des intolérances alimentaires. Voilà. Alors, en sachant qu'on peut doser les principaux neurotransmetteurs dans les urines, hein, il y a des kits de dosage des neurotransmetteurs dans les urines, ce qui est très intéressant, en particulier à partir du moment où on a affaire à des anxiétés chroniques, des états de dépression qui s'expliquent mal et des phénomènes de burn-out, et puis même des pathologies comme le TADA, par exemple, hein, les déficits de l'attention et l'hyperactivité. Un bilan des neurotransmetteurs permettra de bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral et puis également, bien sûr, de se poser les bonnes questions sur le rôle de l'intestin dans la récupération des acides aminés précurseurs. Alors, l'alimentation moderne, alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire dans l'alimentation moderne, avec des bonnes et des mauvaises choses. Alors, évidemment, nos ancêtres avaient une alimentation qu'on a du mal à le concevoir, mais qui était extrêmement différente de la nôtre. Et moi, je me rappelle, par exemple, il y avait beaucoup de maisons qui avaient un mur qui était percé et qui était au nord, et avec un grillage, et on mettait tout ce qui était périssable, on le mettait dans le mur, et ça servait de frigidaire, en fait. Hein. Voilà, dès qu'il faisait trop chaud, hop, on mettait le fromage, on mettait les fruits, etc. Et puis, on utilisait beaucoup de techniques de conservation. Par exemple, le fromage, par exemple, c'était une façon de conserver le lait. Le saucisson, c'était une façon de conserver la viande. On faisait sécher la viande, etc. Et en fait, c'est des modes de conservation. On salait la morue. Hein. On faisait beaucoup de salaison. Et tout ça, c'était des modes de conservation qui étaient liés au fait que ben, il n'y avait pas les surgelés, il n'y avait pas les frigos. Il n'y avait pas tout un tas de les conserves, etc., qui sont, et puis les aliments lactofermentés, qui sont des modes de conservation qui permettent d'avoir des aliments d'assez bonne qualité, même dans le temps, et de les conserver dans le temps. Et puis, il y a le phénomène aussi que maintenant, on est dans une société d'opulence, et donc on va consommer beaucoup trop de protéines, animales en particulier, avec une charge en azote, bien sûr, du foie et des reins. Et puis surtout, le gros problème qu'on a avec les protéines, c'est que ces protéines, eh bien, elles sont reconnues comme peptides agresseurs. Et donc, ça va permettre de développer de plus en plus d'intolérance alimentaire. En particulier, dès qu'il va y avoir des phénomènes de sécheresse tissulaire. Et donc, environ maintenant, on estime entre 10 et 15% de la population avec des intolérances alimentaires. Ces phénomènes, on va le voir, donnent tout un tas de symptômes et sont graves parce qu'ils vont entraîner des perturbations progressives du système immunitaire. Ensuite, il y a le phénomène des graisses. Alors, on en consomme trop ici aussi. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que les graisses sont porteurs des odeurs. Hein, quand vous avez quelque chose qui n'est pas terrible, vous mettez une noix de beurre, par exemple, dans la poêle, hein, puis tout de suite, ça ravive les odeurs. Il y a le phénomène de support de l'odeur. Et évidemment, il y a le phénomène qui est lié aux acides gras saturés. Hein, on utilise beaucoup de saindoux, beaucoup de graisses animales, hein, qui en fait n'ont pas les qualités des oméga-6 et des oméga-3, qui sont des précurseurs des prostaglandines. Et puis également, c'est essentiellement, bien sûr, pour le goût. Et puis, il y a le phénomène des acides gras trans. On a tendance à faire des cuissons à très haute température. et style barbecue, par exemple, hein, et évidemment, ça donne des acides gras qui sont extrêmement mauvais pour notre tube digestif et qui sont même, pour certains, nettement cancérigènes. Les glucides, alors ça, je dirais qu'à la limite, c'est ce qu'il y a de plus grave. Un Suisse de 1900 consommait 6 fois moins de sucre que son arrière-petit-fils de maintenant. Donc, on a augmenté ben, le riz, les pommes de terre, voilà, le pain blanc, tout ça. Et puis, on rajoute du sucre dans tout, parce que c'est agréable au goût, hein, les bonbons, les gâteaux, etc. Voilà. Alors évidemment, le problème, c'est le problème de la régulation de la glycémie par l'insuline, et donc l'explosion de l'épidémie d'obésité, comme on a pu le dire, hein, qui n'a pas de secret, hein, qui est liée à des prédiabètes, à des hyperinsulinémies et à la charge en sucre. Si vous voulez faire maigrir quelqu'un, c'est extrêmement simple. Quelqu'un qui est obèse, il faut le considérer comme un hyperinsulinisme, et puis il faut lui mettre en place un régime qui va normaliser au cours de la journée sa prise de sucre et de farine et de fruits. Voilà. Ça, c'est très simple. Mais en fait, les gens n'ont pas compris et on trouve encore beaucoup de bêtises dans la littérature dans ce domaine. Les apports en sel. Alors là aussi, ça c'est quelque chose d'assez terrible. L'industrie agroalimentaire a rajouté du sel un peu partout parce que le sel est un exhausteur de goût. Donc on va le trouver dans la charcuterie, les fromages, les alimentations en boîte, les sauces au soja, le ketchup, etc. Et évidemment, ce sel va surcharger le rein avec un phénomène qui est en train également de faire des ravages, qui est l'hypertension artérielle. Voilà. Voilà. Alors, la dysbiose intestinale chronique. Voilà. Alors, là aussi, je vais être un peu iconoclaste, hein. Pour moi, la dysbiose intestinale chronique, et en particulier la candidose intestinale chronique, n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un écosystème qui va avoir des équilibres qui vont varier dans le temps en fonction de ce qui est au-dessus de l'alimentation. Et en fonction de ce qui est au-dessous, l'équilibre immunitaire et la sécheresse des tissus. Mais en fait, le système, il faut faire confiance au système, il est relativement autorégulé. Alors, il faudra corriger des excès d'apport alimentaire, on vient d'en parler, des intolérances alimentaires, et là on en a parlé aussi, ces intolérances, il faut les suspecter dès que vous avez des troubles fonctionnels digestifs, météorisme, acidité gastrique, remontée acide, le pyrosis, la constipation, les gaz, etc. Voilà, les troubles fonctionnels digestifs. Dès que vous avez des troubles cutanés, dermite sèche, prurite, rosacée, vous savez, c'est les irritations du nez, de la face, des pommettes, etc. Les troubles tendinomusculaires récidivants, en particulier au niveau des épaules, au niveau des poignets, cervicalgie, lombalgie, etc. Et puis de la fatigue chronique jusqu'à un état dépressif. Et là, évidemment, dans l'état dépressif, la sérotonine est dans le coup. Voilà. Et puis, éventuellement, des mycoses urogénitales chez les sujets immunodéprimés. Voilà. Donc, je crois personnellement, moi, je ne fais plus du tout de dosage des germes digestif. Hein, je considère que bon, on voit des différences. Bon, il y a un petit peu plus de Clostridium, il y a un petit peu plus de champignons. Mais en fait, si vous régulez l'immunitaire et si vous régulez l'alimentaire, ça se régule tout seul. Voilà. Et en fait, on n'a pas vraiment de moyens efficaces. C'est pas en gavant votre patient de probiotiques que vous allez régler le problème. Voilà, alors bon, monsieur Seignalay, dans les années 80, 90, avait bien compris, suite à des études antérieures et puis c'est des séries personnelles, le rôle du gluten et des laitages. Alors, il avait bien compris ça, il a publié plusieurs bouquins intéressants. Et puis, dans les années 90, les Allemands ont mis au point des tests qui permettaient de doser des anticorps anti-aliments. Et donc, ça, c'est très, très important. Chez les enfants, on estime que ça commence, il y a déjà 3% des enfants qui ont des intolérances alimentaires. Et puis, ça s'accroît avec l'âge pour atteindre 10 à 15% de la population. C'est-à-dire que tous les jours dans votre cabinet, vous allez avoir quelqu'un qui souffre d'une intolérance alimentaire, qui lui procure un handicap important et qui risque de déboucher sur des pathologies gravissimes. Alors, la première des grandes intolérances, c'est le gluten. Pourquoi? À cause des variétés modernes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les riz, les blés de nos jours ne sont pas du tout les mêmes que les blés d'il y a 40 ans. D'abord, ils sont moitié plus petits, ils sont beaucoup plus gros, et puis surtout, la teneur en gluten a explosé, ce qui les rend extrêmement panifiables. Donc ça, c'est très facile, parce qu'on met la farine dans des machines qui malaxent le blé ne se casse pas, et ça fait des superbes pains, ça fait des superbes pâtes à pizza, mais en fait, le gluten qui est élastique, c'est une espèce de colle qui va bloquer la digestion et puis qui va donner des peptides qui sont irritants. Voilà. Et donc, on va se trouver rapidement devant une situation qui est celle de l'intestin poreux. C'est-à-dire l'inflammation chronique de l'endothélium va faire qu'il y a énormément de peptides non digérés qui vont activer le système immunitaire et qui va faire que ça ne sera plus que le gluten, mais ça va être en plein d'autres choses. Et on va voir, alors maintenant on peut faire des tests, on va voir jusqu'à 350 aliments, et puis sur les 350, il y a certains patients, ben ils en ont 75, 8 ans auxquels ils sont intolérants. Voilà. Et en fait, ça, ce n'est pas grave du tout, simplement, ce n'est pas du tout qu'ils sont intolérants à tous ces aliments-là, c'est qu'ils ont un intestin poreux. Et donc, ils réagissent à tout et à n'importe quoi. Voilà, alors on a chez Rec-Québec, on a des remèdes qui m'ont aidé, en particulier pour réduire les manifestations des intolérances alimentaires. Solanum compositum, vous savez que solanum, c'est la tomate, hein, Solanum lycopersicum, avec entre autres histalinum, adrénalinum, etc. Donc ça, c'est des dilutions d'allergènes, lacbovinum, c'est le lait, etc. C'est des dilutions d'allergènes, on espère baisser la sensibilité du sujet à ces intolérances-là. Alors, c'est un remède qu'on utilise, en fait, vous mettez en place l'éviction, on va en parler, hein. Vous attendez un mois, en gros, il faut un mois, entre 3 et 6 semaines, pour que les bons effets de l'éviction soient notables, et à ce moment-là, vous faites une petite cure de R83 pour justement baisser l'hypersensibilité. Alors, par contre, vous pouvez utiliser tout de suite Bromélia compositum, qui est une formule d'enzyme digestive qui va améliorer justement la dégradation des peptides alimentaires et donc qui va diminuer la tendance au leaky gut. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant. Alors, quels sont les aliments? Non, ça a été trop vite là. On peut revenir à la diapo d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Quels sont les aliments problématiques? Alors, évidemment, le lait de vache, alors c'est un aliment de base en Suisse, évidemment. Alors, attention, il y a une erreur qui est extrêmement commune. On parle d'intolérance au lactose. Alors, c'est absolument pas ça. C'est l'intolérance à la caséine du lait, c'est-à-dire la protéine du lait, qui est en cause. Quand on parle d'intolérance au lactose, c'est une maladie génétique qui apparaît dès la petite enfance, ce qui n'a rien à voir avec l'intolérance à la caséine du lait, qui apparaît beaucoup plus tard, à l'âge adulte et même plus tard. Voilà. Donc, ne pas parler d'intolérance au lactose, parler d'intolérance au lait. Ensuite, le gluten, en sachant qu'il y a des tas d'aliments, il y a 5 grands aliments qui contiennent du gluten, le blé, l'avoine, le seigle, l'orge et l'épeautre, le grand épeautre. Le petit épeautre en contient beaucoup moins. Et puis après, il y a toutes les autres céréales comme le riz, le sorgho, etc., qui contiennent pas de gluten et donc on peut l'utiliser sans problème. Et puis il y a d'autres farines qui sont utilisables, comme par exemple la farine de sarrasin, tout un tas d'autres choses qui peuvent être utilisées en particulier pour faire du pain et même la fécule de pomme de terre, pour faire des pains sans gluten. Les œufs de poule, voilà, ça c'est les 3 grands, lait de vache, gluten et œufs de poule. Et bien sûr, là aussi, c'est la protéine qui est allergisante, donc c'est le blanc de l'œuf. Le jaune d'œuf, à la limite, la plupart du temps, il passe relativement bien. Et puis, il y en a d'autres, les fruits à coque. Il faut savoir que les fruits à coque contiennent 9% de protéines, donc elles sont allergisantes, avec en tête les amandes. Les fruits tropicaux, pour certains patients, avec en tête l'ananas. Les légumineuses, alors vous savez que les légumineuses ou fabacées, c'est la famille végétale qui fabrique des protéines. Les petits pois, le soja. Alors là aussi, on voit, c'est assez amusant, les gens détectent une intolérance au lait de vache, donc on leur dit, vous arrêtez le lait de vache, et puis ils se mettent à s'abreuver de soja, de lait de soja. Et puis on les revoit l'année d'après, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une intolérance au lait de soja qu'ils prennent en excès. Donc il faut faire attention au soja. Et puis plus rarement, les poissons et les crustacés. Bon, les crustacés en Suisse, c'est pas le gros problème. Alors les levures. Et les champignons, et en particulier le candida albicans, ça a fait le buzz ces 10 dernières années dans le petit monde de la naturopathie. Alors, physiologiquement, ce sont des hôtes minoritaires du microbiote et ils ne prolifèrent qu'en cas d'immunodépression, alcoolisme, infection chronique, maladie auto-immune, cancer, etc. Et en trop grand nombre, bien sûr, ils peuvent favoriser la libération de cytokines inflammatoires. Alors, dans le cas, quand on aura, alors ça se détecte par ce qu'on appelle les mous, c'est-à-dire le dosage des métabolites urinaires. C'est très rare qu'on arrive à en mettre en évidence. Quand on arrive à en mettre en évidence, il faut se dire que le problème, ça va être de dépister une immunodépression. Et puis généralement, ça se développe sur une intolérance alimentaire aussi. Donc en fait, si vous voulez, mon expérience me fait que j'ai rapidement arrêté de m'énerver avec les candidoses. Les candidoses sont les marqueurs microbiens d'un déséquilibre alimentaire et immunitaire. Voilà. Donc il va falloir mettre en évidence ces choses-là. Alors, il y a un régime pour les gens qui ont une candidose digestive chronique, ce qui est très rare, mais bien sûr, alors on va réduire tout ce qui est les fruits à cause du sucre, les champignons, les levures, les aliments fermentés, en gros c'est surtout le sucre, et puis tout ce qui va irriter le tube digestif, les piments, l'alcool, et puis éventuellement le gluten et le lait s'il y a une intolérance. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'ils pourront consommer et même certains fruits qui sont relativement peu sucrés. Voilà. Donc là, on va mettre en évidence, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de préciser tout ça. On va en parler. Alors, les clés du bon régime alimentaire pour respecter son microbiote. Alors, il faut interroger, il faut prendre le temps quand même d'interroger les gens sur leurs habitudes alimentaires en évitant les excès et les périodes de jeûne prolongées. Voilà. Il faut diversifier l'alimentation. Je dirais qu'il n'y a rien de pire que les monodiètes. Éviter les aliments industriels, tout ça c'est du bon sens. Si possible, prenez des produits bio, maintenant il y en a partout. Et là, petit geste écologique, si possible, proche du lieu de production. Consommez des fibres à chaque repas. Consommez des sucres à un index glycémique bas, en petite quantité, et toujours associé à une protéine. Ça c'est la clé de la régulation de la glycémie. C'est-à-dire, si vous prenez un sucré, prenez toujours une protéine avec, ça permet de tamponner le yo-yo glycémique et ça évite la prise de poids et l'effet glycogène. Évitez l'utilisation des antibiotiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des hypolipémiants et de l'alcool. Et essayez, insister sur une bonne balance oméga-3, oméga-6, c'est-à-dire tout ce qui est huile d'assaisonnement. Utilisez des huiles riche en polyinsaturés. Par contre, pour la cuisson, utilisez plutôt des huiles saturées. L'huile d'olive étant intermédiaire, on l'utilisera ponctuellement si ce n'est pas des cuissons trop, à température trop élevée. Alors, comment on va reconnaître tout ça? Alors, autrefois, on faisait des dosages des IgE dans le sang. Ça, c'était intéressant pour les intolérances et les allergies chez le petit enfant. On faisait des prix de tests sur la peau. On mettait sur la peau du sujet tout un tas de patchs, de timbres avec l'allergène et on regardait la grosseur de l'irritation. Ça, c'est des trucs qui se font encore, mais c'est complètement barbare et relativement peu précis. Et alors maintenant, on a des tests modernes, en particulier donc les tests ImmuPro. Alors en Suisse romande, il y a deux labos qui le font, il y a MGD à Genève et Salamin à Sion, dans le Valais. Alors, vous pouvez les contacter, ils vont vous envoyer des kits de prélèvement que vous donnerez à vos patients, et puis ils vous présenteront le panel des aliments auxquels ils sont intolérants. Alors, on peut tester de 22 à 350 aliments. Alors, évidemment, le prix n'est pas le même. Évidemment. Alors, personnellement, j'ai arrêté de faire des ImmuPro. Alors, le labo vous pousse, bien sûr, à faire des tests plus chers. Personnellement, c'est rarissime que je demande des tests chers. Pour moi, le 22, c'est largement suffisant. Parce que le 22, on teste tous les allergènes de base. Et ces allergènes de base, si vous avez ces allergènes de base, vous avez un leaky gut. Et donc, forcément, vous en avez plein d'autres derrière. Mais ce n'est pas la peine de s'énerver sur ces intolérances secondaires. C'est du bruit de fond. Concentrez-vous sur les allergènes de base. Et puis, il y a mon petit chouchou qui est le bilan nutrition santé, qui est aussi un test sérologique, qui va permettre d'évaluer l'état d'inflammation et l'état de fonctionnement du terrain immunitaire. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller voir sur www.mybiobox.com. Alors, en fait, pour les intolérances alimentaires, on va choisir ma façon de faire, quand même après plus de 15 ans de l'utilisation, je choisis trois intolérances principales. Voilà. Faut pas donner la liste aux patients de tout ce qui sort sur l'ImmuPro, parce que il va chez lui, il va au restaurant, c'est la règle à calculer à chaque fois qu'il va manger quelque chose, donc c'est pas faisable. Donc je lui dis voilà, on va se fixer sur trois aliments principaux. Alors généralement en effet, bon, c'est ce que j'appelle la totale, vous avez le gluten, le lait et puis les œufs, mais vous pouvez avoir les fruits à coque, vous pouvez avoir d'autres choses. J'ai des patients par exemple qui sont migraineux uniquement aux œufs. Il suffit d'arrêter le blanc d'œuf, ils n'ont plus de migraine. Voilà. Et je leur dis, voilà, vous faites ça strictement sur une année. Et on va réintroduire au bout d'un an, progressivement, aliment par aliment. Et on va réintroduire l'aliment à peu près sur 4 à 6 semaines. C'est-à-dire le premier jour, il prend une demi-cuillère, deuxième semaine, une cuillère, puis deux, puis Au bout de 6 semaines, il mange l'aliment normalement et on va voir si les symptômes reviennent. Si les symptômes ne reviennent pas, on est tranquille, on est à peu près tranquille, on peut passer à un autre aliment. Voilà. Si les symptômes reviennent, on arrête. Et puis, on refait l'ImmuPro, en principe, à la deuxième année, hein, au bout de 2 ans. Et c'est là où, en particulier, les produits de Reykjavik, les enzymes et les liposensibilisants sont intéressants pour améliorer la tolérance. Alors, il y a des gens qui utilisent des tests physiques comme la biorésonance, la kinésiologie, qui sont intéressants, mais pour moi, je n'ai pas une sensibilité extraordinaire et puis je me méfie beaucoup de mon impression. Hein. Donc, ça dépend beaucoup de la personne qui fait le test et de sa fiabilité. Donc, personnellement, je trouve que c'est des tests qui ne sont pas très, très chers. Hein, ça vaut 100 euros, 100 francs. Et puis, on en fait un tous les ans, tous les 2 ans. Donc et puis, c'est quand même une base scientifique indiscutable. Voilà. J'ai développé tout ça sur notre petit site médecineintégrée.com, si vous voulez aller voir. Alors voilà comment ça se présente en pratique. Donc à droite, vous avez les résultats d'un test ImmuPro. Vous voyez, alors on va regarder les trois laits. Là, on voit que c'est très nettement le lait de vache qui est incriminé, mais les autres laits ne sont pas exempts de problème. Mais on va se concentrer déjà sur le lait de vache, l'œuf de poule, le gluten. Voilà. Et le reste, ça va à peu près. On voit quand même qu'il y a un petit mélange de miel. Alors, mélange de miel, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le miel. Ça veut dire qu'il y a certainement une intolérance au pollen derrière. Hein, donc, il faut poser la question de la pollinose. Et de même, il faut faire attention aussi, vous avez souvent la vanille. Hein, la vanille, alors ce n'est pas du tout une intolérance à la vanille. En fait, c'est une intolérance au chocolat. Alors là, j'explique qu'il faut arrêter le chocolat. Des fois, c'est très dur pour certaines. Ensuite, ça, c'est le bilan. Qu'est-ce que va nous donner le BNS? Le BNS va nous donner, là, on voit par exemple, c'est un sujet qui a un énorme stress oxydatif. Donc là, il va falloir, si on veut calmer le jeu, faire un traitement antioxydant au moins de 6 semaines pour que l'inflammation cède. Et puis, on va regarder, si vous voulez, déjà, est-ce que les tissus sont secs ou pas? Est-ce qu'il y a une tendance anémique? Et puis, est-ce qu'il y a une inflammation chronique ou pas? Là, apparemment, ce n'est pas trop, trop mal, mais il y a quand même un gros stress oxydatif. Et puis, on regarde un petit peu. Ben là, on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup de tensions nerveuses. Et puis, il y a les graisses qui sont relativement pas bien gérées. Donc là, il va falloir en discuter avec le patient aussi. Voilà, donc allergie et intolérance intestinale, que proposer? Donc l'exclusion des aliments irritants pour une année, en tout cas les 3 principaux. Chez ImmuPro, ils proposent de faire, au bout d'un certain temps, des tests de provocation orale. Moi, je suis absolument contre cette méthode-là. Il faut laisser pendant une année le système immunitaire tranquille et il faut qu'il oublie l'intolérance à ces aliments. Donc, si vous faites des tests de provocation, c'est contre-productif. Veillez à un transit régulier. Alors, le transit régulier, le transit digestif, le moteur du transit digestif, c'est la vésicule biliaire. Donc, pour moi, il y a un premier remède auquel on pense déjà que le patient boive suffisamment. Et puis, épagalène, hein, le R7. Et puis, en cas de constipation, le R37. Alors, attention, en particulier, c'est souvent des femmes qui ont ce qu'on appelle la maladie des laxatifs. Elles ont commencé à en prendre un petit peu, etc., puis de plus en plus. Et puis après, on est dans des situations de véritable blocage du transit digestif. Et là, ben, il faudra associer le R7 et le R37. Et puis, veiller aux fibres, veiller aux huiles, etc., à plein de choses. C'est souvent assez difficile à récupérer, la maladie des laxatifs. Au bout d'un an, donc, comme je vous l'ai dit, si les symptômes ont disparu, on va réintroduire les aliments à problème l'un après l'autre progressivement. Voilà, s'il y a plus de 3 aliments, évoquer un intestin poreux, prescrire un cicatrisant intestinal. Alors, il y a plein de spécialités Il y a plein de spécialités qui proposent l'L-glutamine en cicatrice intestinale. C'est pas mal. C'est à associer souvent avec des bons résultats. Des fois, ça ne suffit pas. Optimiser la sécrétion d'enzymes, hein, R7, R72. Agir sur les facteurs de nombreuses réactions d'intolérance, l'histamine. Surtout s'il y a des réactions immédiates aux aliments qui en sont riches, les fraises, le kiwi, etc. Alors, ça, c'est la différence qu'il faut faire entre les allergies alimentaires, où l'histamine est impliquée, et les intolérances. La grande différence, c'est l'immédiateté ou non de la réaction inflammatoire. Si c'est une réaction inflammatoire immédiate, l'histamine est dans le cou, hein, vous mangez des fraises, vous mettez à vous gratter partout, donc ça c'est une allergie. L'intolérance, c'est différent, la réaction est retardée dans le temps, 24, 48 heures, même des fois 72 heures après, et c'est pour ça que c'est très difficile d'incriminer tel ou tel aliment, c'est pour ça qu'on est obligé, ben, on ne sait pas toujours ce qu'on a mangé 3 jours avant. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par des tests sanguins qui mettent en évidence les anticorps spécifiques. Voilà, alors quand il y a une réaction immédiate, donc on va utiliser histaminome composé avec un petit rappel du rôle de l'histamine dans tous les systèmes de régulation du corps. C'est un agent pro-inflammatoire qui va jouer un rôle dans énormément de régulation et dans énormément de symptômes, les nausées, les maux de tête, les vertiges, les réactions anaphylactiques, les arythmies, les démangeaisons, les bouffées de chaleur, l'urticaire, etc. Alors, maintenant, on va passer sur l'aspect thérapeutique simple. Alors, très intéressant, les aptes. Les aftes, c'est un phénomène relativement commun, banal. Tout le monde a eu ou aura des aftes. Pour la médecine chinoise, l'afte, c'est une chaleur sur l'estomac. Ça veut dire qu'en fait, on a la manifestation à la bouche et la partie supérieure de l'estomac, pour la médecine chinoise, d'un phénomène inflammatoire. Donc, c'est une nécrose lymphoïde, l'afte. C'est un aspect d'acidose localisée sur une inflammation digestive et en particulier au niveau du digestif haut. Donc, on va utiliser borax, très intéressant, et puis on va éliminer les aliments provoquants, en particulier, il y en a deux qui sont très classiques, les noix et les fromages. Et puis, certains aliments qui peuvent être en jeu, les antibiotiques, la chimiothérapie, on sait qu'il y a certains antibiotiques et certaines chimiothérapies qui donnent ce qu'on appelle des bouches pleines d'aftes. Donc ça, c'est vraiment que le tube digestif, il n'en peut plus, il rejette tout. Les nausées, les vomissements. Alors, à respecter, si vous voulez, là aussi, si le corps vomit, c'est qu'il a besoin d'éliminer un certain nombre de choses. Alors, et essayer d'identifier le toxique. En général, si vous vomissez, de même si vous avez la diarrhée, il ne faut pas forcément couper la diarrhée. C'est souvent des phénomènes salvateurs. Donc, on réfléchit. Ça peut être aussi des manifestations d'une saturation hormonale. C'est le cas classique des femmes enceintes, par exemple. Il faut savoir que les hormones sont détoxifiées par le foie. Et puis, quand tout d'un coup, le taux d'hormones est multiplié par 10, le foie n'en peut plus. Et donc, ça passe au niveau de la vésicule et ça crée une hypersensibilité aux odeurs et des vomissements de la femme enceinte, ce qui est assez classique. Alors, on a un complexe qui est vraiment très bien, qui est le R52, hein, qui est un grand remède des nausées et des vomissements, y compris de la grossesse, hein, l'hypersensibilité aux odeurs, etc. Alors, on va regarder la formule, c'est intéressant. Vomissane. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, ben, il y a des grands remèdes classiques du mal des transports, Cocculus, Pétroléum, hein, les deux grands classiques, Nux Vomica aussi, très intéressant, ça c'est des nausées d'excès alimentaire et de mal digestion. Hein. Et puis, on a Aetusasinapium qui est une ombellifère qui est très intéressante, en particulier sur les intolérances au lait. C'est les renvois des bébés. Et puis, vous avez également colchicum, qui est un grand remède d'hypersensibilité aux odeurs. Voilà. Alors, gastralgie et pyrosis, bien, si vous avez des gastralgies, c'est que la motricité et les sécrétions acides sont altérées. Alors, il y a quand même trois grands remèdes fondamentaux là-dedans. Argentum nitricum, qui est un remède de gens qui aiment trop le sucre et puis qui mangent vite. Hein, c'est ce que j'appellerais ceux qui mangent au lance-pierre. Ils ont des flatulences, des colites, des irritations. Et puis, ils ont une espèce de compulsion qui est tout à fait caractéristique. Arsenicum album, c'est des gens qui sont incapables de se détendre, ils ont une tension nerveuse permanente. Évidemment, comme l'estomac, c'est un énorme organe de l'adaptation, ils vont tirer sans arrêt sur leur sécrétion gastrique. Et puis, nux vomica, qui correspond à des gastralgies d'excès alimentaire, et en particulier d'excès d'alcool ou de tabac. Voilà. Donc, grand remède des gastralgies, des gastrites et du pyrosis, le R5, un grand remède des brûlures d'estomac, en particulier non rythmé par les repas. Attention, en principe, c'est ce qu'on appelle la faim douloureuse, hein, les gastralgies, c'est-à-dire le sujet, quand il commence à avoir faim, ça se manifeste par une brûlure et c'est calmé par la prise d'aliments. Si ce n'est pas calmé par la prise d'aliments, il faut faire attention, c'est un ulcère, en sachant que si l'ulcère dure, ça sera un cancer de l'estomac. Si les brûlures d'estomac s'accompagnent d'une régurgitation de liquide acide dans la bouche en se penchant, c'est un pyrosis, et à ce moment-là, ça évoque une hernie hiatale. Si c'est une hernie hiatale, le traitement il est ostéopathique. C'est qu'en fait, eh bien, la position du diaphragme n'est pas bonne, et c'est en corrigeant la dynamique du dos et des attaches du diaphragme qu'on corrigera le pyrosis. Donc ça va se traiter par l'ostéo. Ayez un bon ostéo, soyez en relation avec un bon ostéo et il vous sensibilisera à ça. Bien sûr, il faudra faire le point des erreurs alimentaires et évoquer une intolérance alimentaire. Mais ça soulagera bien en attendant. Alors, dans le R5, ben, on voit déjà les trois grands remèdes qu'on avait vus, hein, arsenic, argentum et nux. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Belladonna, qui est un grand anti-inflammatoire. Carbo-végétabilis, qui est un grand remède de flatulence. Chamomilla, qui est un remède d'hypersensibilité nerveuse. Chélidonium, très intéressant pour récupérer de la motricité, en particulier au niveau des voies biliaires, puisque très souvent, c'est un problème de charge biliaire qui va se manifester au niveau de l'estomac. D'ailleurs, on le voit quand les gens se mettent à vomir de la bile, hein, c'est qu'il y a une participation de la vésicule biliaire. Et puis, vous avez aussi des phénomènes de douleur au niveau de l'estomac qui sont liés à des phénomènes psychologiques. Hein, en particulier, c'est le cas de lycopodium et d'anacardium. C'est des gens qui ont des impulsions, qui ont un mal vécu psychologique qui va se manifester par des troubles de la motricité digestive. Alors évidemment, on peut utiliser, on a des complexes qui marchent pas mal au niveau de la nervosité. Vous avez le R47. Alors moi, j'aime bien le R47 parce qu'il y a asafétida. Et c'est le grand remède, c'est le remède, à mon avis, le plus fidèle dans ce qui est le pyrosis, les remontées acides. Voilà, asafétida, grand remède du pyrosis. Muscus, grand remède des spasmes des diaphragmes. Voilà. Pulsatilla, grand remède de l'hypersensibilité aux aliments gras. Ignatia amara, c'est un remède d'épuisement nerveux et de somatisation. Et puis Quieta, qui est un grand sédatif, en particulier si les symptômes apparaissent la nuit. Quieta, on s'en sert volontiers, en particulier pour les troubles du sommeil, les troubles de l'endormissement, les sommeils agités, etc. Alors ensuite, on va passer tout de suite au remède principal, c'est le R7. Pour moi, le grand organe de la digestion, c'est le filtre. Et c'est son viscère, la vésicule biliaire. La physiologie du foie et de la vésicule biliaire vont perturber la physiologie de l'estomac, vont perturber la motricité digestive, vont perturber le microbiote. Donc, il va falloir soigner le foie et la vésicule biliaire. En sachant en particulier qu'il faut éviter au maximum toutes les singeries qui s'appellent la cure du foie. Actuellement, il y a une grande mode, la cure du foie, c'est-à-dire vous prenez des grandes quantités de sulfate de magnésium et vous faites des calculs. Et on vous dit, c'est merveilleux, vous avez éliminé vos calculs. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que, en fait, eh bien, c'est le sulfate de magnésium qui fait précipiter la bile et qui provoque des calculs. Donc ça, il faut éviter au maximum. Les gens qui ont fait des cures du foie, il faut les déconseiller absolument. C'est très risqué et ça sert rigoureusement à rien. Alors, on va s'en servir l'UR7 quand il y aura, je vais vous dire tout de suite, hein, pratiquement pour tout. Hein, inconfort gastro-intestinaux, nausées, ballonnements, éructations, dysfonction hépatique, ça c'est quand même beaucoup de gens. Il faut savoir qu'en Suisse romande, 30% de la population a une stéatose hépatique. Hein, autrement dit, ce qu'on appelle un foie gras. Sensation de trop-plein, pesanteur, douleur abdominale associée à une digestion ralentie d'un repas riche en graisse. Voilà, ça c'est il y a un plat suisse que j'adore, c'est ce qu'on appelle le rosti viril. Je ne sais pas si vous connaissez le rosti viril. C'est un rosti dans laquelle on verse, sur laquelle on verse une fondue moitié-moitié. C'est absolument délicieux. C'est un des plats pour lesquels je me donnerais. Mais alors, au niveau de la charge en graisse, ce n'est pas idéal. Donc là, vous avez intérêt à prendre du R7 après, parce que des fois, c'est un petit peu. Troubles fonctionnels du foie, cholécystite, inflammation des voies biliaires. Voilà, bon, ça, c'est classique. Hypercholestérolémie. Alors là aussi, l'hypercholestérolémie, c'est. Ça sert à rien, ça sert absolument à rien de vouloir faire baisser le cholestérol. Ce qu'il faut, c'est se poser la question du pourquoi. Alors, il y a trois causes d'hypercholestérolémie. La cause la plus rare et qui est la seule qui nécessite de faire baisser le cholestérol, c'est les maladies génétiques. Il y a des maladies génétiques hypercholestérolémiques. Ça, on le détecte très vite parce qu'il y a une hypercholestérolémie familiale et le cholestérol monte chez les gens très jeunes. Donc là, on peut accepter de baisser le cholestérol. Mais ce n'est pas le cholestérol qui bouche les artères, c'est l'inflammation chronique, hein, c'est les inflammations de bas grade. Dans les plaques, il y a moins de 10% de cholestérol. Donc vous voyez, ne croyez pas ce qu'on vous raconte que le cholestérol bouche les artères. Alors il y a du cholestérol qui monte dans deux cas, dans les prédiabètes. Hein, donc c'est en limitant les sucres. Et en réduisant les surpoids, vous normaliserez le cholestérol. Et puis, dans les maladies inflammatoires, le cholestérol est un marqueur de l'inflammation, et en particulier les maladies inflammatoires du rein, les gloméronéphrites, les néphroses lipolytiques, etc. Donc là, le cholestérol est juste un petit drapeau rouge qui indique qu'il y a une dysfonction majeure qu'il faut explorer, qu'il faut traiter. Mais si on la traite, le cholestérol se normalise. Alors, stimulant des fonctions des cellules du foie. Alors, le foie, c'est quand même 60% de la détoxification, 60% de la biosynthèse, c'est 900 fonctions connues. Donc, on peut dire que le foie est impliqué dans à peu près toutes les pathologies humaines. Et c'est aussi la sentinelle de toutes les inflammations aiguës. Voilà, donc. Augmente la détoxification du foie, inflammation des voies biliaires, bien sûr, problème. Alors, sans gluten et sans lait, je n'ai pas marqué lactose, parce qu'en fait, le lactose, c'est très rare et c'est quelque chose de très particulier. Bien, là aussi, il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut corriger. Qu'est-ce que ça contient? Alors, ce remède fondamental, Cardus Marianus, le chardon-marie, ça remet de l'eau et du sang dans le foie. Cinchona, pubescence, China, grand maître de vide de sang du foie. Alors, si vous avez un vide de sang du foie, vous avez des symptômes tendinomusculaires, vous avez des blocages, des inflammations, des canaux carpiens, etc. Chélidonium majus, grand remède de la motricité des voies biliaires et du tube digestif. Colocynthis, grand remède d'espace, non? Lycopodium, grand remède de la sécheresse digestive, et Pinux vomica, grand remède, bien sûr, des excès alimentaires, alcooliques et médicamenteux. Hein, vous voyez, vraiment, c'est des remèdes tout à fait centraux, donc vous pouvez faire des cures de R7, ça marche pour tout. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, hein. Trop de triglycérides ou de cholestérol. N'essayez pas de faire un régime pour baisser le cholestérol, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Est-ce que c'est une maladie génétique? C'est extrêmement rare. Est-ce que c'est un syndrome métabolique, un diabète gras qui risque d'évoluer vers le syndrome métabolique? Ou est-ce que c'est le marqueur d'une maladie inflammatoire? Quand vous avez répondu à la question, ben, vous prenez une décision, vous traitez la maladie et il n'y aura plus d'hypercholestérolémie. Alors, ne croyez pas que la levure de riz rouge soit anodine, hein, c'est une statine. Les fibrates, je dirais que c'est encore pire que les statines. On a trouvé les fibrates parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les paysans qui utilisaient des pesticides sur leurs champs avaient des taux de cholestérol très bas. Hein. Donc en fait, les fibrates, c'est directement issu des pesticides qu'on met dans les champs. Donc, ça perturbe la physiologie hépatique et surtout, ça a un impact de chimiothérapie au niveau immunitaire. C'est-à-dire, ça baisse votre tonus immunitaire, ça favorise les infections chroniques et ça va pousser en particulier les patients vers des pathologies comme le cancer. Voilà, R12. Alors, ça, c'est un remède que j'utilise beaucoup. J'en suis très content, c'est un remède de vieillissement vasculaire. Voilà. Donc, grand remède de tendance à l'artérosclérose, c'est ce que je vous ai dit, c'est la fibrine qui est le marqueur de la cicatrisation des plaques par une inflammation de bas grade. Et donc, on va utiliser Arnica, qui est le grand remède des tissus vasculaires. Barium, Barita, c'est un grand remède de baisse de la fonction endocrinienne et également de sclérose des tissus. Conium maculatum, qui est la ciguë, qui est un remède du groupe de l'or, hein, qui est un remède de l'hypooxygénation générale. Calliode, qui est un sel aussi fibrosant, mais aussi très intéressant puisque c'est un sel d'intolérance alimentaire. Phosphorus, grand remède de congestion sanguine, puis plombum aceticum, grand remède de sclérose vasculaire périphérique et d'hypertension. Voilà. Donc ça, dès que vous avez un petit papy ou une petite mamie qui commence à avoir un petit déclin cognitif, des poux périphériques qui ne sont pas trop bien perçus, etc., et le R12, c'est une cure de rajeunissement, alors que moi, j'associe toujours avec le R7, parce que parallèlement, il faut relancer la détoxification du foie, c'est très important, vu le nombre d'hépatosclérose lipidique. Voilà. Suivant. R72, le côlon irritable, voilà, très intéressant. Voilà, régule la sécrétion des sucs digestifs. Alors, il y a une grande mode actuellement, c'est l'intolérance aux sucreries, avec ce qu'on appelle le régime FODMAP. On peut le suspecter en présence de sels volumineuses avec nourriture peu digérée. Personnellement, moi, je n'ai jamais vraiment vu de FODMAP. Je pense que quand vous avez réglé le problème des inflammations de bas grade et des intolérances alimentaires, c'est quand même assez rare. Voilà. Les intolérances, les affections pancréatite aiguë, hein, 85% des cas, c'est chez les alcooliques. Donc, les pancréatites, quand quelqu'un vient vous voir en séquelles de pancréatite, donc vous devez suspecter un alcoolisme chronique, même s'il n'est pas toujours avoué. Voilà. Et puis, le syndrome du côlon irritable, bien sûr, il y a les intolérances alimentaires, bien sûr, il y a les troubles de l'équilibre alimentaire, mais il faut savoir que le côlon, c'est la caisse de résonance de l'émotionnel, hein, et donc il va falloir faire un petit travail d'évaluation de comment le patient gère sa vie et gère son environnement psychologique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça contient? Ben, Colossintis, qui est un grand maître de spasme. Hein. Littéralement, là, il y a un mot-clé littéralement pour Colossintis, pour se rappeler de l'effet. Hein. C'est des douleurs et des diarrhées. C'est diarrhées suite de vexation. Hein. C'est le terme littéralement « tu me fais chier ». Lycopodium, donc un grand maître de constipation de selles sèches, hein, avec beaucoup de gaz. Momordica balsanifera, hein, avec aérophagie, flatulence. Et puis Phosphorus, avec des phénomènes d'inflammation hépatique, pancréatique, gastrique, voilà, et des selles grasses de maldigestion. Voilà, alors évidemment, les intestins qui vont filtrer les aliments peuvent se boucher. Aïe, aïe, aïe. Ça se bouscule. Alors, c'est une pathologie qui est plutôt féminine pour des raisons d'abord des raisons anatomiques, hein, parce que le sigmoïde est plus comprimé dans le petit bassin, dans le bassin de la femme, et puis aussi parce que le foie et la vésicule biliaire, pour des raisons métaboliques et émotionnelles, sont plus facilement perturbées. Voilà. Alors, il faut bien préciser les causes de cette constipation. Alors, on a un remède qui marche très très bien, c'est le R37. Ça peut même, moi j'ai même eu des cas où ça a fait disparaître des constipations invétérées, donc très très efficace. Ça n'empêche qu'il faut quand même vraiment interroger le patient pour bien comprendre le mécanisme de cette constipation. Alors, essentiellement, il y a quatre grands types de constipation. Les constipations par sécheresse tissulaire, là il y a un trouble hormonal sous-jacent qu'il faut évoquer et évaluer. Les constipations par motricité insuffisante, hein, c'est la sédentarité ou la prise de médicaments. Il faut savoir que les anxiolytiques, les somnifères, tout ça, c'est des médicaments de la famille de l'opium, donc qui vont limiter la sécrétion des enzymes digestives et qui vont en particulier ralentir la motricité intestinale. Donc tous les gens qui sont sous anxiolytiques et sous somnifères sont des constipés. L'espasme, eh bien ça c'est le problème de la nervosité, des gens qui abusent des excitants, et puis bien sûr la maladie des laxatifs. Et puis les glaires. Et les glaires, ce sont des phénomènes d'alternance de diarrhée et constipation. Alors, il faut bien comprendre que le phénomène princeps, c'est la constipation, et qu'en fait, les épisodes de diarrhée sont là parce que le côlon n'en peut plus et il finit par se vider. Donc, il ne faut surtout pas traiter la diarrhée, il faut traiter la constipation. Quels sont les remèdes de ce R37? Ben, Alumina, qui est un grand maître de sécheresse et de parésie digestive. Bryonia, qui est un grand maître de selles sèches, Lycopodium aussi, Nux vomica, ben pour tout ce qui est les excès alimentaires, la néfaste food, Plombum, grand maître justement de parésie de motricité digestive, hein, ça c'est typiquement un remède de ce qu'on appelle les coliques de plomb, hein, coliques avec épisode de diarrhée sur fond de constipation, et puis Sulfure, qui est le grand remède de détoxification du foie et de relance de la stagnation digestive. La diarrhée. Alors la diarrhée, il faut bien définir ce qu'est une diarrhée, c'est-à-dire la diarrhée, c'est l'évacuation de 7 liquides plus de 6 fois par jour. Donc vous pouvez avoir des gens qui ont 2-3 selles par jour à partir du moment où les selles sont formées. Relativement formé, c'est pas une diarrhée, c'est un transit rapide, mais c'est pas une diarrhée. Voilà. Donc la diarrhée, c'est une réaction de défense des intestins pour éliminer une toxine ingérée. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais du symptôme d'une affection digestive qui peut être le plus souvent virale, parfois bactérienne, hein, et rarement parasitaire en Europe. Par contre, on a des diarrhées chroniques beaucoup dans le Moyen-Orient et en Afrique et en Inde, hein. Et ou une dysfonction digestive, hein, c'est ce qu'on appelle, et en particulier les épisodes de diarrhée sur fond de constipation. Alors pour la diarrhée, le R4, diarrhée liquide, selle molle, diarrhée du voyageur, on appelle la tourista. Alors là aussi, le problème de la tourista, c'est lié au changement de saison. Quand vous prenez l'avion à Genève, à Noël, et qu'il fait moins 4, et que vous arrivez à l'île Maurice, il fait 30 degrés, vous avez changé de saison tout d'un coup en une nuit, donc le digestif, il n'aime pas. Diarrhée suite de prise d'antibiotiques, voilà, poussée dentaire chez l'enfant, bien sûr, ça c'est une diarrhée motrice. Et puis, ça va même jusqu'à des diarrhées d'inflammation chronique digestive, comme la maladie de Crohn, par exemple. Bon, c'est sûr que ça ne suffira pas, mais ça pourra aider ponctuellement, le R4. Alors, qu'est-ce que ça contient? Ça contient, bien sûr, des remèdes de spath, comme Colocynthis, et puis des grands remèdes comme Baptisia ou Veratrum-Album, qui sont des remèdes qu'on utilisait autrefois pour le choléra, pour les diarrhées épuisantes. Et puis vous avez Mercurius Corrosivus, qui est un remède d'infection, de surinfection digestive. Voilà. Colique épuisante avec ténesme. Le ténesme, c'est l'envie permanente d'aller à la selle avec douleur espacée. Il faudra penser en particulier chez les enfants à des vers, Felix Compositum. Voilà, ça c'est bien. En sachant que les enfants vont se réinfester entre eux et très souvent à l'école ou dans les bacs à sable, etc. Puis, alors, par plus rare, les Ascaris et le Ténia. Et puis, évidemment, donc là, c'est souvent la viande crue. On a le ver solitaire, le diagnostic est assez facile, c'est la faim, l'amaigrissement et surtout des gros anneaux de vermicelle dans les selles, donc ça c'est, on fait le diagnostic tout de suite. Là il faudra faire un traitement énergique. Alors il y a des traitements naturels, il y a des traitements chimiques, on pourra discuter, mais ça marche très bien quand même, mais les deux sont assez efficaces. Il faut bien faire cuire la viande quand même. En particulier, le porc est très infesté par la trichinose, le staphylocoque, le ténia, etc. Voilà. Alors, l'intérêt de Felix Compositum, c'est que ça va surtout calmer les troubles nerveux associés aux parasitoses. En particulier les oxures. Les enfants deviennent insupportables avec les oxures. Et si, avec Phyllismas, les symptômes persistent ou ne s'améliorent pas, il faudra vraiment avoir affiné le diagnostic. Alors, qu'est-ce que ça contient? Le grand remède, c'est Cina, bien sûr. Et puis après, vous avez Artemisia, Phyllismas, qui sont des grands remèdes, et Thanacetum, qui sont des grands antiparasitaires digestifs.
Ok, Jean-Yves Henry, je suis désolée parce que là, on est déjà passé à 20h15. Est-ce qu'on peut plutôt passer aux questions et réponses? On a fait
vraiment plus gros. Allez, volontiers. Vous voyez, la prochaine fois, il faudra pour prévoir 1h30. Alors, j'attends les questions et les réponses. Je pense qu'il y en a 5, là, apparemment.
Est-ce que vous arrivez à les lire ou bien je vous les lis?
Alors, non, ça va. Pour la salive, qu'est-ce qu'indique la salive? Alors, en fait, il y a deux problèmes avec la salive. C'est les excès de salive. C'est la petite mamie que vous allez voir à l'EMS, comme ça, et puis qui a son mouchoir, comme ça, et qui passe son temps à baver. Donc, ça, c'est un symptôme. Et puis au contraire, vous avez les gens qui ont des bouches sèches et des fois de façon gravissime, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Bouche-Rose-Waugrin, qui est une maladie auto-immune qui souvent se développe parallèlement à une arthrite. Donc là, il va falloir évaluer. Bon, ça veut dire qu'au niveau rat de pancréas, il n'y a plus d'eau. Donc il va falloir trouver une solution. Est-ce que l'intestin est déséquilibré? Alors, c'est les deux. Voilà. Est-ce que c'est l'intestin qui perturbe le psy? Oui. Est-ce que c'est le psy qui perturbe l'intestin? Oui. Donc, c'est le rôle du praticien de faire la part des uns et des autres et puis de voir comment on va pouvoir rééquilibrer le total. À quel dosage préconisez-vous la glutamine? Pendant combien de temps? Alors, personnellement, moi, je fais d'abord l'éviction, au moins un mois, et puis j'introduis, pour voir, en général, au bout de 3-4 semaines, on voit les bons effets de l'éviction. Et puis, généralement, il reste des choses. Et là, j'introduis la glutamine et je fais au moins un mois de glutamine. Et je vois l'effet de la glutamine. Alors, chaque labo fait des préconisations. En général, c'est 2 sachets par jour, hein, le matin, dans l'après-midi. Ça dépend des concentrations de votre laboratoire. Alors, ça marche moins bien chez certains. Là aussi, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est l'état de l'inflammation. Hein. Et c'est pour ça que le BNS est très important. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont des intolérances sur des petits états d'inflammation et il n'y a pas besoin de mettre d'antioxydants. Puis il y en a d'autres qui ont des énormes états inflammatoires sur des grandes sécheresses tissulaires, avec tout un tas d'autres phénomènes et pour lesquels l'intolérance alimentaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Et c'est pour ça que la notion de précision du diagnostic est importante. Voilà, le dérèglement hormonal, donc les dysfonctions hormonales dans un sens large, hein, il faut bien comprendre que c'est les hormones stéroïdiennes qui vont régler l'hydratation des tissus. Donc dès que vous avez la peau et les muqueuses sèches, il faut suspecter un phénomène de mauvais réglage hormonal et donc une sécheresse tissulaire. Si les tissus sont secs, ils vont s'enflammer. Hein. Et c'est là-dessus que se développera le leaky gut, les inflammations chroniques qui donneront des acidoses localisées, donc des phénomènes d'ulcères, de fissures, etc., de lithiases, et puis qui pourront évoluer après, de la phase 4 à la phase 5 et la phase 6, vers des maladies auto-immunes et même des affections tumorales. Voilà, donc le dérèglement hormonal, le dépistage du dérèglement hormonal est très important. Sur le BNS, il est signé par la baisse de l'effondrement des albumines. Alors, comment réguler? Ben, il faut corriger le trouble de sécrétion des hormones stéroïdiennes et essentiellement, moi j'utilise beaucoup les oméga-3 et les oméga-6. Voilà. Qui sont en fait des pré-hormones. Hein, par exemple, l'onagre est assez efficace dans ces phénomènes de sécheresse, l'onagre, la bourrache, etc. Voilà, alors patients avec brûlure de l'œsophage, hein, donc pyrosis et hémorroïdes. Hein, bon, alors hémorroïdes, ça veut dire que le foie est engorgé. Brûlure de l'œsophage, ça veut dire que le foie écrase l'estomac au sens énergétique du terme et qu'il y a des remontées acides. Voilà. Donc le problème, c'est foie. Hein, donc R7. Et puis bien sûr, s'il y a une obésité, généralement, tout ça, c'est sur le phénomène d'obésité. Et de troubles alimentaires, ben, il faut réguler l'obésité et les troubles alimentaires. Edith, bonjour Edith. Jeune homme de 16 ans avec ulcère de l'estomac. Alors, oui, ben, bien sûr. Alors, pansement gastrique, ben là, c'est l'allopathie, hein, c'est-à-dire on masque le symptôme. Alors, très nerveux et soucieux, ben, c'est probablement un des trois grands remèdes qu'on a vus, argentum, Nux ou arsenic, hein, il faut choisir lequel des trois, il faut le donner en haute dilution, et puis bien sûr, faut revoir son alimentation et surtout la façon qu'il a de manger, si ça se trouve, il ne mastique pas, enfin, il fait tout un tas de bêtises. Donc, ça, je sais que tu es très forte là-dessus, donc tu vas te débrouiller très bien. L'hypersalivation. Alors, l'hypersalivation, c'est un problème en fait de. Qui est lié à une dysfonction de la rate pancréas, hein, et de l'estomac. Il faut là, c'est assez compliqué l'hypersalivation, c'est-à-dire en fait les circuits de l'eau au niveau des glandes salivaires ne sont pas, ça fonctionne mal. Hein, donc faut vraiment, je veux pas répondre en 5 minutes, c'est compliqué. Voilà. Donc, on va rester sur le fait que c'est compliqué. Personnellement, je demande toujours un BNS et généralement, le BNS me donne la solution. Alors, non, je pense que le remède Reykjavik pour la sécheresse de la muqueuse et des tissus, c'est le R19 et le R20, c'est-à-dire les complexes hormonaux. Voilà. C'est les hormones qui régulent la sécheresse des muqueuses et des tissus. Voilà. Merci Nathalie. Bonjour à Nathalie. Chloé, peut-on utiliser ces complexes dans l'hémicycle? Oui, bien sûr. Voilà, on l'a vu dans l'hémicycle. Alors là aussi, dans l'hémicycle, il y a le phénomène de sécheresse et il y a le phénomène d'inflammation chronique. Donc pour moi, l'hémicycle, c'est-à-dire la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ça se développe toujours, quasiment toujours, sur une sécheresse tissulaire et sur une intolérance alimentaire. Voilà. Donc là, il va falloir, on ne peut pas traiter donc une rectocolite ou une maladie de Crohn si on ne règle pas la sécheresse tissulaire et si on ne règle pas l'intolérance alimentaire. Voilà, bonjour Mickaël. Voilà, bon, ben, je crois qu'on a répondu à tout le monde.